Radio Okapi.
Le journal avec Billy Yvon Lutumba.
Jet de pierre, gaz lacrymogène et cris de colère en lieu et place des cours dans les auditoires. Voilà l'ambiance qui a prévalu ce jeudi matin à l'Institut des bâtiments et travaux publics, IBTP. Étudiants et la direction de l'Institut ne s'accordent pas quant aux frais d'études à payer cette année. Autre tension, c'est le saccage de la radio-télévision Kindoumanié-Matekaem la nuit de mercredi à jeudi. Son promoteur, le sénateur Obeng Ngongo-Luowo, attribue cet acte de sabotage à un officier supérieur de la police sous ordre du ministre de l'Intérieur Emmanuel Chadari. Nous vous parlerons dans notre dossier de ce soir de l'initiative des jeunes volontaires du Haut-Katanga pour lutter contre la désertification, tandis que Dr Alain Aveba, notre invité, va revenir sur les conséquences de la baisse de fréquentation des malades dans les structures sanitaires. Tout le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux à l'écoute de la Radio Okapi. Bienvenue, bonsoir à tous. Ce journal part de la commune de Ngaliema, ici à Kinshasa, où il y a eu une situation confuse à l'Institut des bâtiments et travaux publics IBTP ce jeudi. Les étudiants étaient cet avant-midi dans la rue pour protester contre la décision du directeur général de leur institution en matière de taux à payer pour les frais académiques. D'après ces étudiants, leur DG s'est obstiné en bafouant la décision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, demandant soit d'appliquer le taux de l'année dernière, sinon de ne pas fixer le taux de manière unilatérale. Le DG est aussi accusé d'obliger les étudiants à ne payer qu'en dollars. Une situation qui a dégénéré à un accrochage avec la police. Celle-ci, pour restaurer l'ordre, a usé des gaz lacrymogènes. Reportage, Jacques-Yves Molima.
Quand on est à l'intérieur du site de l'IBTP par la police et les militaires FRDC, après une descente dans la rue en érigeant des barrières enflammées, l'un des étudiants micro de Radio Okapi donne les raisons de leur mouvement.
Ici chez nous, il y a toujours une dictature un peu imposée.
On vous demande de payer à quel taux?
À 16, c'est un peu que nous sommes sortis.
Scandant toujours des chansons à l'intérieur, une nouvelle unité de la police surgit, apparemment avec une nouvelle mission. Tout à coup, ils passent à l'acte, ils entrent dans les sites. Bilan, au moins 6 étudiants blessés, dont un pare-balles que nous avons vu. Une dizaine d'autres interpellés. Le commandant de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, arrivé sur place quelques temps après, relativise la situation.
Quand ils viennent ici, c'est pour étudier. Ce n'est pas pour être manipulé par les politiciens. Un problème des taux, c'est un problème qui se règle à l'amiable. Ce n'est pas un problème de prendre l'arrière en otage.
La police est entrée dans le site?
Bien sûr. Quand ils sont en train d'accaresser le véhicule sur la rue, vous voulez que la police fasse quoi?
Arrivé à son tour et bien reçu par les étudiants, le ministre de l'ESU, Steve Mikai, amorce une négociation. Mais il n'a pas pu finir sa médiation. Et lui et toute sa délégation, y compris nous journalistes, avons été bombardés de gaz lacrymogènes au moment où il tentait de parler avec les étudiants. La situation a complètement dégénéré après. Beaucoup d'étudiants ont été interpellés, d'autres ont quitté les sites.
En réaction à cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a fait savoir que tous les chefs d'établissement sont censés respecter et mettre en application la décision de la hiérarchie. Quant à ce qui concerne le taux, le ministre Steve Mbikai pense qu'aucun chef de l'établissement ne devrait agir d'une manière unilatérale. On écoute Steve Mbikai au micro de Jacques-Yves Molima.
Il y a deux situations. Il y a les établissements où on a toujours payé les frais en dollars, mais il y a d'autres par contre où les frais fixés en dollars sont payés en francs congolais. Depuis l'année passée, c'était payé au taux de 96. Après une rencontre, on a eu la primature avec le chef du gouvernement. Il a été conseillé au cet établissement de pouvoir ne pas fixer de façon unilatérale le taux. Comme ils sont en difficulté de fonctionnement, il faut absolument négocier avec les étudiants et puis les professeurs pour tomber d'accord sur le taux qu'on doit appliquer. Et là, il me revient que à l'IBTP, on aurait carrément demandé aux étudiants de payer en dollars alors que l'année passée, ils ont payé en franc congolais, ce qui a créé les troubles. Je décide à ce qu'on ne puisse pas payer en dollars et qu'il y ait absolument des concertations entre parties et qu'au cas où il y aurait un compromis qui soit avalisé d'abord par la tutelle et qui fait rapport au chef du gouvernement. Tout celui qui ira à l'encontre de cette directive sera sanctionné.
Et aux dernières nouvelles, le directeur général de l'INBTP, le professeur Azama, vient d'être suspendu. L'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mika, a été signé ce jeudi après-midi. Pour cause, le non-respect des directives de la tutelle quant à la fixation du taux des paiements des frais académiques. Nous restons dans l'espace étudiantin congolais. Les activités académiques ont repris normalement ce jeudi à l'université de Bounia. Après 2 jours de paralysie, les étudiants, les enseignants ainsi que le personnel administratif, technique et ouvrier ont répondu à à l'appel du secrétaire général académique après la visite du gouverneur de province de l'Ituri pour constater les casses enregistrées après les accrochages de mardi entre policiers et étudiants. Explication Martial Kiza.
Les auditoires sont pleins d'étudiants depuis ce jeudi matin. Les bureaux administratifs sont également ouverts. Les étudiants disent reprendre les cours suite aux assurances données par le gouverneur des provinces face à leurs revendications. Selon Jefferson Abdallah Penembaka, la concession Kirele reste un bien de l'université du Bounia jusqu'à ce que la haute hiérarchie du pays tranche.
La position du gouverneur de province, c'est que cette concession reste à l'université de Bounia. Ça, c'est la position du gouverneur de province. Mais les dossiers n'étaient plus au niveau de la province. Et au niveau national, nous attendons. C'est notre hiérarchie. Nous attendons que la hiérarchie se décide. Et dès lors que la hiérarchie va se décider, nous allons faire appliquer ce que la hiérarchie va décider. La hiérarchie ici dont je parle, ce n'est pas le ministre des Affaires foncières, ce n'est pas le ministre de l'ESU, c'est le conseil des ministres, c'est le président de la République et il va se prononcer.
Il ajoute qu'une commission d'enquête est mise sur place pour tirer au clair ce qui s'est passé mardi dernier dans cette université. Cette commission est composée de membres du comité provincial de sécurité et des délégués de l'UNIBOU. Entre temps, la police annonce les au parquet de grande instance de cet étudiant qu'elle a arrêté pendant les manifestations pour raison d'enquête. Ce que le parquet n'a pas encore confirmé. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Autre chose à présent, de la province du Maniema, il ne revient que la radio-télévision Kindu Maniema TKM a été saccagée la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Kindu. Selon le promoteur de TKM, le sénateur Obeng Gongo Luowo, ces incidents sont survenus pendant l'émission à téléphone ouvert La Voix au Peuple. Toujours selon lui, cette attaque contre cette chaîne de télévision a été conduite par un officier supérieur de la police envoyé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Chadari. On écoute le sénateur Obeng Gongo Luowo, joint au téléphone par Richard Junior Kamunga.
Il était 21h de Kinshasa lorsque le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Chadari, m'a réveillé pour me dire que à la radio TKM Kindu, on citait son nom. Je lui ai dit que j'allais vérifier. On m'a confirmé qu'une émission à téléphone ouvert où un auditeur a appelé pour dire que Chadari aurait reçu la visite du gouverneur Tutu et le sénateur Moulaïla qui lui aurait amené 250 000 dollars avec un salon Louis XIV. L'animateur a réagi professionnellement en disant non, je ne crois pas que cela soit possible. Alors, j'appelle Chadari, je lui dis, écoutez, d'après ce que j'apprends, c'est un auditeur qui a appelé et l'animateur a démenti. Chadari me dit, non, c'est un montage grossier. Moi, je suis vice-premier ministre, je vais envoyer les gens, je vais l'alerter la net. On va aller chez vous, moi, j'ai dit, chez moi, je suis un sénateur avec humilité. Vous allez entrer chez moi à 23h sans aucun document de l'État. Je vérifie. Et les gens sont entrés chez moi, ils ont tout saccagé, ils ont volé des émetteurs radio. Télévision, je vais amener à la police.
Et pour l'instant, le cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur contacté n'a pas voulu s'exprimer. Ici à Kinshasa, ouverture ce jeudi du deuxième congrès extraordinaire de l'UDPS El Tshibala sous le thème « Normalisation, réconciliation et revitalisation du parti ». Les travaux ont été lancés par le président du Conseil national provisoire du parti, Alfred Ndinga, en présence du premier ministre Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de ce parti. Au cours de ce congrès, le parti va ouvrir une nouvelle page de son histoire et de nouvelles structures sont aussi attendues, a annoncé Alfred Ndinga. Cap vers l'est du pays. Ouverture ce jeudi dans la ville de Mbarara, en Ouganda, d'une réunion régionale bilatérale entre la RDC et l'Ouganda. C'est le vice-ministre ougandais des Affaires étrangères qui a ouvert cette rencontre. Selon les sources officielles, au cours de cette réunion sera également discutée la question du groupe armé ADF actif dans le territoire de Beni. Martial Papi Moukeba.
Cette réunion régionale bilatérale qui durera 4 jours se tient entre les districts sud-ouest ougandais de Rubirizi, Kisoro, Kanungu, Rukingiri, Bundibujo, Toroko, Kasese et de la province congolaise du Nord Kivu. La délégation congolaise à ses assises est composée d'une vingtaine de personnes et est conduite par les vice-gouverneurs du Nord Kivu. Selon des sources officielles, certains officiers supérieurs de la 34e région militaire des FRDC et des opérations Sokola 1 ainsi que de la police nationale congolaises prennent part également à cette réunion. D'après la même source, outre les questions bilatérales entre les districts sud-ouest ougandais et la province du Nord Kivu, les délégations ougandaises et congolaises aborderont également la question de l'ADF. Toutefois, selon d'autres sources sécuritaires, depuis quelques jours, il y aurait déjà des réflexions et des discussions entre les FRDC et l'armée ougandaise pour des opérations conjointes pour la neutralisation de ces groupes armés actifs dans les territoires de Beni. Beni, Martial Papi Kapi Mukeba, Radio Kapi.
Au sud Kivu, cette fois-ci, des combats ayant opposé les groupes armés locaux Banyamulenge et Bafouli coalisés au Banyindou ont fait 5 morts et 10 blessés de part et d'autre dans le groupement de Bichombo. Ces combats se sont déroulés lundi dernier dans les hauts plateaux du territoire d'Ouvira. Les représentants de ces communautés locales ont rencontré la MONUSCO ce jeudi à Ouvira pour solliciter l'évacuation des blessés de cette région enclavée pour des soins appropriés vers Ouvira. Mais sur place, dans les hauts plateaux, selon des sources locales, les combats se poursuivent encore en ce moment dans le village de Kihamba, Fistangoma.
Le représentant de la communauté Banyamulenge, Seba Ozasekunzi, et celui de la communauté Bafuliru, Adolphe Kadusa, affirment que plusieurs villages sont vidés de leurs habitants. Ces derniers ont pris plusieurs directions. Certains ont quitté Kagogo pour Kianzovu, d'autres Dishenge vers Kateja, des Murambi et Kirumba vers Karunga, des Kauna vers Mugeti et Kateja. Des informations fiables font état d'un pillage systématique hier de vaches et chèvres de la population de Kihamba par le belligérant. Ces combats qui ont commencé lundi dernier au village des Kauna font suite à l'assassinat la semaine dernière d'un pasteur d'une église locale dans le village de Kibogeri. Les membres de sa communauté, voulant aller mener des investigations sur le lieu du crime, ont été interceptés sur leur parcours par une milice. Celle-ci n'a pas accepté que des civils s'investissent dans un dossier qui est sous traitement par les instances étatiques locales. Dans la dispute, des échanges de tirs ont commencé. 5 parmi les belligérants sont morts sur les champs. Les blessés estimés à 10 sont dans un état grave, affirment des sources locales. Pour rappel, l'administration parallèle, l'une tenue par les Banyamulenge et l'autre par les communautés Bafuliru et Banyindou, serait à l'origine des conflits ethniques dans la région de Bijombo. Les forces loyalistes déployées dans la région n'ont pas reçu mandat de neutraliser ni l'un ni l'autre groupe, selon des sources militaires Sokola 2, d'Ouvira Fistango Mamayabala, Radio Kapi.
Et puis, les révélations faites par Human Rights Watch sur le recrutement des M23 et les conséquences qui en ont résulté sont tellement sérieuses et graves qu'il faut qu'une enquête soit diligentée. Déclaration du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH hier au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Les propos du directeur Aziz Thio recueillis par Honoré Missenga.
Human Rights Watch, qui est une ONG internationale indépendante, considérée comme une organisation assez sérieuse qui, je pense, ne peut pas s'aventurer à avancer ce type d'allégations si elle ne dispose pas de preuves pour confirmer et soutenir ces allégations-là. Les allégations me semblent assez sérieuses et extrêmement graves, de manière à pouvoir déclencher l'ouverture d'une enquête. Je pense que ce que nous pouvons attendre en termes de réaction, c'est l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces allégations-là, qui sont extrêmement sérieuses et extrêmement graves. Les chiffres, les événements et les incidents auxquels se réfère Human Rights Watch concernent des éléments sur lesquels nous avons rapporté, au moins pour les chiffres liés au nombre de personnes blessées, personnes tuées au cours des répressions des manifestations de l'année dernière.
Retour dans l'est de la RDC, au Nord Kivu, la Commission nationale de la lutte contre la fraude minière, CNLFM, dénonce ce qu'elle qualifie de trafic d'influence des quelques responsables politiques, militaires et administratifs lors des saisies des minerais frauduleux. Ainsi, un officier militaire est actuellement en détention depuis environ 3 mois pour avoir tenté de faire passer 600 kg de coltan vers le Rwanda. Depuis, la CNLFM dit subir des pressions de certains hauts gradés de l'armée. Daniel Ngoyimbayo, responsable de la S de la CNLFM au Nord Kivu, dit être bloqué et affirme que ses pratiques limitent sur le terrain ses actions de lutte contre la fraude minière. Il explique ici au micro de Gabriel Ouaménia.
Cette tâche que nous avons, j'ai du mal à ne pas vous dire à ce stade qu'il n'y a pas de trafic d'influence. Il y a fortement trafic d'influence politique, administrative et même technique. Vous attrapez quelqu'un qui fait la fraude fiscale, qui amène de l'argent au niveau de chez nous ici, il passe par la douane pour venir acheter des minéraux de fraude, c'est son directeur qui intervient. Et ça réduit sensiblement nos efforts de terrain. Nous nous appuyons sur les hommes des troupes qui sont censés nous aider, ou nos agents qui sont sur terrain, mais ce sont ces agents-là qui sont sous protection de leur chef. J'ai des cas comme ça où je suis bloqué parce que c'est un acteur politique qui interfère, soit c'est un acteur militaire, soit c'est un acteur administratif, soit c'est un acteur technique. Toute la justice, toute la démarche est bâclée parce que son général a intervenu. Voilà la difficulté que nous avons sur ce plan-là. C'est ainsi que nous profitons pour donner un appel, demander à tout le monde de laisser les trafics d'influence pour que nos minéraux puissent profiter à la République.
Disons que dans la nuit de mardi à mercredi, un véhicule de la société de gardiennage contenant une cargaison importante de minerais a été saisi par les services de sécurité à Goma, a ainsi souligné le même responsable. Nous terminons la partie nationale de ce journal par le centre du pays. L'ONG Oxfam distribue depuis le 1er décembre des vivres aux populations retournées à Kamonya Centre, Mayanda, Kamako, Kabilembu et environ au territoire de Chikapa ou Kasai. Selon le manager de cette structure internationale dans la région, ce don est constitué de farine de maïs, de haricots, d'huile végétale et de sel. Il a expliqué que cette distribution qui se poursuit jusqu'au 31 décembre vise environ 90 000 personnes. Ce projet est financé par le Programme alimentaire mondial. Suivez les explications de Constant Boka au micro de Blaise Ndongala.
Pour la donation, chaque individu a 3 à 8,325 kilos de cette quantité-là. Donc si quelqu'un a 5 personnes dans sa famille, vous prenez cette quantité-là, vous multipliez par 5 et on lui donne. Pour un mois. Pour le moment, c'est les Kassai. On va intervenir dans les zones de santé où on n'a pas encore intervenu. Parce que Kassai, c'est grave. Il faut noter que depuis qu'on a commencé, oui, il y a beaucoup de retours. Quand les gens ont appris, tous les jours, les gens viennent. On passe par un recensement où on passe porte à porte, on se laisse les jetons. Maintenant, après ça, nous programmons les distributions.
Signalons qu'à travers ce projet, Oxfam entend aider les populations victimes de la crise née du phénomène Kamuina Nsapu dans cette région.
Actualité Afrique Monde.
Comme vous l'avez bien compris, nous sommes en dehors de la RDC. Au moins 10 personnes ont été tuées en Centrafrique, à Ipi, dans le centre du pays, depuis dimanche où se déroulent des affrontements meurtriers entre groupes armés, renseignent ce jeudi des sources concordantes. Une source religieuse a indiqué à l'AFP qu'hier mercredi, ils ont enterré 10 morts, ajoutant que le nombre des morts pourrait atteindre une quarantaine de civils et combattants confondus. Une autre source onusienne a confirmé le nombre des 10 tués à Ipi. Les combats opposent depuis dimanche des groupes issus de l'ex-coalition rebelle Seleka, majoritairement musulmans, à des miliciens anti-Balaka, anti-Machette, chrétiens et animistes plutôt. Emmanuel Macron est prêt à remettre à l'Algérie une copie des archives de la période coloniale française, soit de 1830 à 1962, réclamée depuis les années par Alger, a ainsi annoncé ce jeudi à Paris le premier ministre algérien Ahmed Ouahia en saluant une percée. Au lendemain de la visite du président français en Algérie, M. Ouahia a été reçu jeudi à Matignon par son homologue Édouard Philippe dans le cadre d'un comité intergouvernemental de haut niveau organisé régulièrement par les deux pays. Mercredi à Alger, Emmanuel Macron s'est dit prêt à ce que Paris restitue les crânes d'insurgés algériens tués au XIXe siècle par l'armée française et conservés au musée de l'Homme à Paris, un geste attendu par l'Algérie. La Russie s'est dit aujourd'hui, jeudi, très inquiète après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, appelant les parties prenantes au conflit israélo-palestinien à la retenue et au dialogue. Moscou est très inquiète de la décision qui a été annoncée à Washington, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, disant craindre des conséquences funestes pour la région dans son ensemble. Pour le ministère, un règlement juste et sûr du conflit israélo-palestinien doit être atteint sur une base juridique internationale, prenant en compte les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous terminons par cette nouvelle de la délégation du gouvernement syrien qui sera de retour dimanche à Genève pour rejoindre les négociations organisées par l'ONU après une absence de plusieurs jours en signe de protestation contre l'insistance de l'opposition à réclamer le départ du président Bachar al-Assad. Le gouvernement nous a informé qu'ils vont revenir à Genève dimanche 10 décembre, a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, en confirmant une information de l'agence officielle syrienne SANA.